Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour. La difficulté d'aborder sereinement en France les crimes coloniaux et leur place dans la mémoire collective s'est illustrée cette semaine encore avec une nouvelle controverse sur les actions de l'armée française pendant la guerre d'Algérie comparée aux crimes nazis d'Oradour-sur-Glane. À la lumière de cette affaire, un documentaire retrace l'utilisation par la France de l'arme chimique en Algérie. Ce documentaire, Algérie, section armes spéciales, est diffusé dans la case du siècle sur la plateforme numérique de France 5. Il s'appuie sur les recherches menées par l'historien Christophe Lafaye et les archives qu'il a rassemblées. Il est signé de la réalisatrice Claire Billet, invitée de Carrefour du Maghreb cette semaine.
On les a vus sortir les cadavres. Ils les ont mis dans les tranchées, par 6 ou 7. Là-bas. Tu ne pouvais pas les reconnaître. Ils étaient tout bleus. Les corps étaient tout gonflés. Ils étaient méconnaissables.
Je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors,
arrivé à la maison, on l'a lavé. L'eau sortait verte. Comme si il avait pris une douche verte.
Bonjour Claire Billet.
Bonjour.
Les témoignages que nous venons d'entendre sont extraits de votre documentaire. Ils témoignent de l'horreur de l'arme chimique, arme invisible, douloureuse, interdite dès après la Première Guerre mondiale, hein, dès les années 20, en raison de l'horreur qu'elle a provoquée dans l'opinion publique. Les nations civilisées n'en veulent plus. La France, la première, et pourtant, c'est cette arme qu'elle utilise dès 1956 en Algérie. C'est une politique qui est pensée, qui est voulue et que vous allez retracer au travers de ce documentaire.
Oui, exactement. En fait, ce gaz-là, en particulier dont on parle dans le film, le CN2D, a été utilisé à grande échelle et puis systématisé. C'est-à-dire qu'au fil des années, la stratégie a été adaptée pour essayer de s'attaquer aux indépendantistes algériens qui étaient retranchés dans tout ce qui est souterrain, abri, grotte. En fait, si vous voulez, j'ai entendu parler de ce fait historique par l'intermédiaire d'un historien, Christophe Lafaye, qui travaillait sur le sujet. Et quand il m'a dit... l'objet de ces recherches, j'étais interloquée de n'en avoir jamais entendu parler. Vraiment. Et je me suis dit qu'il fallait expliquer ce fait historique-là de la guerre d'Algérie. Donc l'idée dans le film, c'était de mêler à la fois des témoignages de victimes algériennes ou d'anciens combattants algériens et de tracer cette histoire à travers les archives. Et ces archives-là ont été des archives donc militaires administratives retrouvées par Christophe Lafaye, un travail de fourmi.
On va l'écouter, il a travaillé 7 ans sur le sujet et il a essuyé refus après refus.
Ce qu'on m'oppose, c'est le code du patrimoine. On me dit les archives qui sont contenues dans ces cartons vont vous permettre de concevoir, donc d'élaborer, de construire, de localiser ou d'utiliser des armes de destruction massive. Comme si dans des archives qui sont par exemple le journal de bord d'une unité, on allait trouver le plan d'une arme chimique, on allait trouver un manuel d'emploi qui explique comment il faut utiliser cette arme chimique, etc. Donc ce sont des objections qui sont totalement farfelues. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on s'interdit de comprendre ce qu'était réellement la guerre d'Algérie.
On s'interdit de comprendre ce qu'était la guerre d'Algérie. Depuis ce conflit, hein, on sent qu'il y a des enjeux mémoriels autour de cette guerre, côté algérien et bien sûr côté français.
Oui, oui. Le sujet est très sensible. Quand j'ai commencé à travailler dessus il y a 4 ans, je vous avoue que je ne l'imaginais pas. Moi, j'ai la chance ou le luxe, ou je ne sais pas, en tout cas dans ma famille, personne n'a été ou victime ou acteur de la guerre d'Algérie. Et, donc j'ai un rapport un peu moins passionné, mais qui me passionne quand même parce que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Le pourquoi, moi, je ne l'aurai jamais exactement, mais je sais que la sensibilité fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'exprimer. Il y a aussi la sensibilité du trauma, donc il y a un silence dans les familles, côté algérien comme côté français, véritablement. Quand j'ai commencé à faire des recherches, après que Christophe Lafaye m'ait parlé de ce travail-là, de l'usage des armes chimiques pendant la guerre d'indépendance, j'ai échangé avec des gens, il y a un vieux monsieur qui m'a dit en France, mais attendez, vous croyez qu'au crépuscule de ma vie, j'ai envie de me replonger là-dedans ? Monsieur Vidalinque, dans le film, c'est extrêmement douloureux pour lui d'en parler.
On l'entend, hein, qui évoque ce souvenir particulièrement douloureux.
En rentrant en Algérie, nous avons été nombreux à ne plus vouloir en entendre parler. C'est fini. D'ailleurs, personne ne nous a rien demandé. Ça a été un mutisme total. Je ne me suis pas endormi une fois en 60 ans ça me passait la guerre d'Algérie.
Jean Vidalenc marquait durablement l'esprit, mais le corps aussi.
C'est la première fois qu'on s'est servi de ces gaz. On s'est retrouvé avec des brûlures partout où on transpirait. Alors on a protesté, et c'est là qu'on nous a fourni des combinaisons étanches. J'ai jamais su la composition de ces gaz.
Comment est-ce que vous l'avez convaincu de vous parler, justement, Jean Vidalenc ?
En fait, c'est pas moi, c'est lui. Moi, j'ai été assez touchée parce qu'il m'a remerciée après l'avoir vu, parce qu'il avait besoin de s'exprimer, tout simplement. Et je pense que c'est encore très, très douloureux pour lui. Là, d'ailleurs, dans le film, j'ai dû simplifier beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu mettre du fait de la durée du film. Mais il a des séquelles physiques, psychiques, c'est compliqué.
Ça rappelle beaucoup ce que dit Benjamin Stora dans La gangrène et l'oubli, dès 1991. Oui. Hein, c'est cette parole des appelés qui est censurée, ce refus de reconnaître les crimes de guerre, la torture, les exactions qui vont être commis. On n'a pas beaucoup bougé depuis. Dans votre documentaire, il y a une voix qu'on n'entend pas ou qu'on entend très peu, c'est la voix officielle française.
Oui, je cherchais pas nécessairement à mettre de l'huile sur le feu. Et en plus, ce qui, moi, m'intéressait, c'était de raconter cette histoire non connue pour moi, pour les générations suivantes. Donc voilà, la voix officielle n'a pas souhaité s'exprimer, n'a pas souhaité réagir. Donc moi, je raconte l'histoire. Et je vais vous dire, en Algérie, les gens que j'ai rencontrés, ils ont voulu parler. Mais on les a peut-être pas entendus non plus. Donc des deux côtés, il y a une volonté de s'exprimer qui est là et qui est vraiment très importante à entendre, je pense, aujourd'hui.
C'est un sujet sensible, enfin c'est un sujet qui émeut, qui provoque beaucoup de sensibilité des deux côtés, mais c'est pas uniquement pour ça qu'on n'arrive pas à en entendre parler tant que ça.
Oui, c'était classifié, c'était des opérations secret défense. Donc pendant longtemps, l'information n'est pas sortie, nous ne l'avons pas su. La question du napalm, ça se sait parce que c'est une arme chimique, mais les gaz, les informations sont restées classifiées. Tant que les historiens ne peuvent pas accéder entièrement aux archives, on ne pourra pas savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est l'objet du travail de Christophe Lafaille.
Et dont on voit encore les conséquences, hein, ces gaz dans les grottes aujourd'hui en Algérie.
Oui, c'est un sujet que je n'ai pas pu explorer profondément. Mais la question se pose de savoir quelle pollution ça a provoqué. Je sais qu'il y a un Algérien que j'ai interviewé, mais que je n'ai pas gardé dans le film, qui, il y a quelques dizaines d'années, avait été brûlé. C'était un enfant, il jouait dans une grotte. Et le jeu, c'était aller ramasser de la terre, alors que les grands enfants savaient qu'il fallait pas. Et donc, il a mis la terre dans sa poche, il a la jambe brûlée pendant des mois.
Claire Billet, réalisatrice d'Algérie, section armes spéciales, diffusée dans la case du siècle sur la plateforme numérique de France 5.
Carrefour du Maghreb. علاش لعبتي بيا عندي كل يوم جاية يا وياي دليلي شتي ديالك عمري تبعتي جروح حواس ويا
Notre amour est éternel. Je veux rentrer dans
L'Algérie de Soul King avec DJ Snake, Cheb Mami, Zao, l'Algérino et Linda, Algerian Style dans Carrefour du Maghreb.
Le leader marocain d'opposition, Mehdi Ben Barka, a rendez-vous avec un étudiant marocain résident à Paris, Tami Azmouri. Avec lui, il va se rendre à Saint-Germain-des-Prés où il a rendez-vous avec le cinéaste Georges Frangy. À Saint-Germain-des-Prés, les deux hommes vont au drugstore, consomment quelques instants, puis sortent. Et il est 12h15, les hommes sortent. Trois hommes sautent sur Mehdi Barka, le mettent dans une voiture et se sauvent par la rue de Rennes. On n'apprendra plus rien après, on n'apprendra que dimanche cet enlèvement car l'étudiant s'est enfui affolé.
Bonjour David Servenay.
Bonjour.
Vous signez Ben Barka, la disparition aux éditions Futuropolis avec un dessin de Jacques Rénal. L'affaire Ben Barka, c'est une affaire emblématique des relations de la France et du Maroc. Pourquoi est-ce qu'on la raconte encore aujourd'hui? Qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui des relations de la France et du Maroc?
Alors, on a décidé de la raconter avec Jacques Rénal parce que pour les moins de 40 ans, si vous dites Ben Barka, ça dit pas grand-chose en général aux plus jeunes. Et on tenait à la fois à réexpliquer ce qu'est cette affaire, qui est un des cold cases, comme on dit aujourd'hui, les plus emblématiques de la Ve République, mais en même temps aussi à rendre hommage au personnage politique qui était Mehdi Ben Barka, parce qu'on ne se rend pas forcément compte ici en France, mais Mehdi Ben Barka, c'est un peu le Jean Jaurès marocain, c'est-à-dire c'est un personnage politique qui a 45 ans, au moment où on l'enlève, où il disparaît. Il va être assassiné, mais on n'a jamais retrouvé son corps. C'est un garçon qui porte des idées plutôt assez radicales de gauche, mais qui est en même temps un politique très fin, très dans le compromis.
Proche d'Hassan II.
Alors, à la fois très proche d'Hassan II, et en même temps qui va devenir son pire ennemi à partir du moment où Hassan II accède au trône en 1961. Pourquoi? Parce que Ben Barka a une conception un peu moderne de la monarchie que devrait être le Maroc, c'est-à-dire une monarchie plutôt constitutionnelle, un peu à l'anglais. Et il était en cela d'ailleurs soutenu par Mohamed V, le père d'Hassan II. Puis quand Hassan II arrive au pouvoir, lui, il a une conception très absolutiste de la monarchie. Et donc les deux hommes vont rapidement s'opposer. Et assez vite, en fait, Hassan II va mettre aux trousses, si je puis dire, les services secrets marocains de Mehdi Ben Barka parce qu'il veut absolument le maîtriser parce que celui-ci incarne un peu l'opposant numéro un du régime.
Alors ça, c'est pour l'aspect historique du personnage de Mehdi Ben Barka. En quoi ça concerne aujourd'hui encore la France? En quoi ça concerne aujourd'hui les moins de 40 ans?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison d'abord judiciaire, puisqu'il y a toujours une information judiciaire qui est ouverte ici à Paris. Il y a toujours un juge d'instruction qui est chargé de l'affaire et qui n'a pas encore répondu à deux questions. Comment est-il mort exactement? On en a une idée assez précise, mais il n'y a pas de certitude absolue là-dessus. Il est mort vraisemblablement par accident, sous les coups de ses ravisseurs. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est où est passé le corps, puisque on sait qu'il a été enterré vraisemblablement quelque part, mais on ne sait pas où, et donc on n'a jamais retrouvé son corps, et c'est pour ça qu'on a appelé le livre Ben Barka, la disparition. Bon. Et ça permettrait de mettre un peu un point final à cette histoire qui dure depuis maintenant 60 ans. La deuxième chose, c'est que Mehdi Ben Barka défendait un certain nombre d'idées qui restent toujours valables aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, il était partisan d'une réforme agraire assez importante pour le Maroc, et qui permettrait un peu de réduire les inégalités de ce pays qui en souffre toujours aujourd'hui. Et il était porteur quand même d'un message, on va dire, de modernité pragmatique. C'est-à-dire que, certes, il était de gauche, il était décrit comme un commis voyageur de la Révolution, mais en même temps, c'était quelqu'un qui était très pragmatique et qui était prêt à faire des compromis. Et donc, à respecter l'institution monarchique, mais tout en l'adaptant à la modernité d'aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on raconte une histoire comme celle-ci? Il y a eu énormément de révélations, d'articles, de presse, de documentaires. Comment on arrive à faire un roman graphique, une bande dessinée à partir de tout ça?
Alors, on a adopté une méthode en fait assez simple. Nous, on est revenu à l'essentiel, à savoir l'enquête judiciaire. C'est-à-dire que les informations qu'on raconte dans le livre, c'est véritablement tout ce qui a été judiciairement validé. Parce que après, il y a eu énormément de versions, y compris des versions médiatiques plus ou moins farfelues. Et donc, nous, on est revenu vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire essayer de comprendre aujourd'hui où on en est dans cette affaire judiciaire. Encore une fois, qui reste ouverte. Bon. Et à partir de là, on a essayé d'en tirer des leçons, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans ce qui nous apparaît comme étant aujourd'hui le plus plausible, dans l'espoir de partager ce savoir sur l'affaire en elle-même, mais aussi sur le personnage politique qu'était Mehdi Ben Barka. Pourquoi ces idées ont toujours une importance et un intérêt pour comprendre aussi la réalité du pays aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qui bloque finalement? Parce qu'il y a un double blocage. Il y a un blocage côté français, mais il y a aussi un blocage côté marocain. Et il y a une espèce d'omerta partagée autour de cet inconnu de où est le disparu Ben Barka. Voilà. Et c'est là où on a voulu pointer un peu les limites, c'est-à-dire que aucun des présidents de la Ve République jusqu'à aujourd'hui n'a tenu la promesse de faire la vérité sur l'affaire Ben Barka, alors qu'on sait que, par exemple, dans les archives des services secrets, il y a un certain nombre de réponses qui sont à portée de main.
Ce livre, il n'y a pas de révélation dedans, on est bien d'accord.
Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui aujourd'hui sont persuadés que le corps de Mehdi Ben Barka a été dissous dans une cuve en inox spéciale fabriquée par la CIA et où on aurait dissous son corps
à
l'acide.
C'est vrai que ça a beaucoup circulé.
Ça a beaucoup circulé. Il y a beaucoup de gens qui sont encore imprégnés de cette idée, alors qu'elle est complètement farfelue. D'ailleurs, elle n'a jamais été reprise par les juges d'instruction qui ont travaillé sur cette affaire. Donc, on a quand même fait le tri et on avance des pistes, mais qui restent encore à explorer. Et 60 ans après, on a vu dans d'autres affaires des révélations qui ont été faites, des gens qui n'avaient pas parlé, ou alors des gens qui estimaient que leur témoignage n'était pas intéressant, ou un petit détail qui va peut-être permettre un jour d'aboutir à une parcelle supplémentaire de vérité. Voilà, faut y croire. En tout cas, nous, on espère que ce livre y contribuera.
David Servenay, certains de nos auditeurs se souviennent sans doute d'avoir entendu votre voix sur cette antenne. Vous avez travaillé longtemps à RFI. Vous avez toujours eu un goût pour des affaires qui mêlaient la France et les pays africains, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'affaire du juge Borrell, aujourd'hui l'affaire Ben Barka. Qu'est-ce qui vous emmène sur ces affaires-là spécifiquement?
C'est l'idée qu'au fond, on est toujours rattrapé par son passé d'une certaine manière et qu'on peut pas s'en défaire parce qu'elles font partie de notre patrimoine commun. Et on se rend compte avec l'affaire Ben Barka, moi c'est ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est qu'il y a véritablement le partage d'un secret, et que ce secret, si on ne s'efforce pas, nous les journalistes entre autres, mais on n'est pas les seuls, il y a aussi des historiens qui travaillent là-dessus, de le dévoiler, bah finalement c'est un peu compliqué d'avancer sur certains points, y compris sur des plans politiques. Hein, on l'a bien vu, à chaque fois que le président Macron fait une sortie sur le passé colonial de la France, ça suscite énormément de polémiques, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont toujours pas été réglées. On l'a vu sur le Rwanda, avec la commission du Clerc, il a fait avancer un certain nombre de chose et c'était vraisemblablement nécessaire. Avec l'affaire Ben Barka, ça serait bien qu'on puisse encore un peu plus avancer pour le bien des relations entre la France et le Maroc.
Merci beaucoup David Servenay. Donc Ben Barka, la disparition chez Futuropolis avec des dessins magnifiques de Jacques Rénal. Merci.
Merci.
Carrefour du Maghreb, à la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.